Bonjour. Chaque trimestre paraît ce que l'on pourrait appeler un ovni dans l'univers de la presse œnophile. Il y a l'historique Revue du Vin de France, la très belle Terre de Vin, la très branchée Revue 12°5, et encore d'autres magazines dont je ne parlerai pas tout de suite. Et puis, il y a un titre à part, Le Rouge et le Blanc. Fondé en 1983 par des passionnés, Le Rouge et le Blanc a toujours fonctionné sans publicité et s'appuie sur le bénévolat de ses rédacteurs. Deux particularités qui garantissent à la fois son indépendance vis-à-vis de l'industrie viticole, dont elle ne dépend pas pour sa survie, et son anticonformisme vis-à-vis de la presse, dont elle se démarque volontiers lorsque, par exemple, elle défend le bio bien avant les autres, mais en avant l'enjeu de la préservation des sols, bien avant, là encore, que ce sujet soit au cœur des préoccupations. Mais l'est-il seulement aujourd'hui ? Et quelle modernité, à l'heure justement où tant de voix se multiplient pour partager sur les réseaux leur passion et leur coup de cœur, proposer leur vision du vin dans une effervescence proche, il est vrai, de la cacophonie générale, mais dans laquelle, nous l'avouons, nous nous inscrivons, nous aussi, winecasters, amateurs, dont la seule ambition à ce jour est d'apprendre et de partager. Bénévole certes, mais ô combien rigoureuse, Le Rouge et le Blanc est la revue qu'il faut lire justement pour en apprendre plus sur le vin, plonger dans les domaines et les appellations, lire des interviews approfondies et des notes de dégustation d'une infinie précision qui ne néglige pas pour autant la sensibilité. Ce 66e épisode se nomme tout simplement Le Rouge et le Blanc. Bienvenue dans la Terre à Boire. Bonjour Sonia Lopez Calleja.
Bonjour.
Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom ?
Presque parfait.
Calleja, en fait, c'est ça ?
Calleja.
À l'espagnol.
À l'espagnol, oui.
Bonjour Philippe Barré.
Bonjour, plus facile, moi.
Merci, vous représentez donc aujourd'hui à notre micro la rédaction de la revue Le Rouge et le Blanc. On est vraiment ravis de faire cette émission. Avec moi autour de la table, je vous présente Laurent Delceau, qui a retrouvé récemment le comptoir de son bar à vin, le Wine Therapy, rue de Montholon, à Paris. Bonjour Laurent.
Bonjour.
T'as retrouvé le comptoir, pas forcément les clients américains qui mettent du temps à revenir.
Bah, disons que effectivement ils sont un peu bloqués aux frontières, mais heureusement on a d'autres clients que les Américains.
Tant mieux. Allez-y, il faut soutenir les cavistes indépendants. Et Patrice Defay est là aussi, notre passionné passionnant. Bonjour Patrice.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Super bien.
Toi aussi, je sais.
Oui, très content d'être là.
Voilà. Et content de rencontrer la rédaction de cette revue sur laquelle on échange régulièrement, bah notamment quand on est chez toi, Laurent, au comptoir, parce que tu as cette habitude d'avoir Le Rouge et le Blanc et un certain nombre de numéros qui sont là posés sur le comptoir avec d'autres revues sur le vin, hein, et puis d'autres livres sur le vin. Ça fait partie des plaisirs qu'on a quand on va parfois dans un bar à vin, c'est de se poser, prendre un verre et puis de lire comme ça. Moi, je vous ai surtout lu comme ça, je vous l'avoue, hein. Je ne suis pas abonné, mais j'ai lu de nombreuses fois au comptoir. Alors, je le disais, Le Rouge et le Blanc est une revue qui a donc 36 ans d'existence, 37, enfin, en 83-2020.
37, ouais.
Avant de retracer son histoire et parler un peu de son actualité, de la façon dont vous faites la revue, j'aimerais vous demander à tous les deux, Laurent, Patrice, ce que représente pour vous Le Rouge et le Blanc, justement, dans le paysage de la presse dans le vin, ou même des médias du vin. Voilà, qu'est-ce que vous en diriez, la place qu'elle occupe à vos yeux ?
Je me lance.
Politesse, vas-y Laurent.
Bon, bah écoute, il y a deux choses qui viennent à l'esprit spontanément. La première, c'est que moi, j'ai eu une vie antérieure dans le cinéma. Donc, Le Rouge et le Blanc, c'est un peu les cahiers du cinéma du vin pour moi. Hein, c'est vraiment la revue sérieuse, impliquée, passionnée. Et quand je suis passé sur de ce côté-ci du comptoir, quand j'ai monté mon bar, j'ai découvert la revue Le Rouge et le Blanc et ça m'a paru évident que je voulais la faire partager avec mes clients notamment. Et donc, je suis pas abonné. J'achète tous les trimestres à la librairie gourmande. Et j'aime bien donc la laisser sur le comptoir, comme tu as pu le remarquer. Et comme pas mal de clients aiment la consulter également.
J'aime bien cette image du cahier du cinéma. Vous nous donnerez vos réactions après. Patrice, pour toi, là, Rouge et le Blanc, c'est quoi?
Alors, le Rouge et le Blanc, c'est une revue donc, que j'ai consultée chez Laurent, mais c'est une revue, quand j'allais chez Laurent, surtout au début, il y a quelques années, qui me faisait encore un petit peu peur. Je me sentais pas au niveau pour la lire.
Et c'est vraiment les cahiers du cinéma, quoi.
Non, mais c'est ça. Et maintenant, je me sens prêt à la lire, et par le goût, et par un peu plus de culture, on va dire, œnophile. Je sais pas, on pourrait peut-être prendre l'image un peu des Matrioshka, les poupées russes. Le premier, moi, j'ai commencé par la RVF, parce que fallait que j'apprenne les bases, donc c'est la première grosse poupée russe. La deuxième, parce qu'elle est beaucoup plus agréable, pour moi, c'est 12°5. Alors, c'est peut-être bobo en termes de positionnement, mais c'est une belle revue qui a un angle et qui est esthétique. Et puis, la Matrioshka à l'intérieur, la plus belle et la plus pépite en termes de qualité, en tout cas d'information, c'est le Rouge et le Blanc. Donc, ça y est, je viens de passer la deuxième Matrioshka et je vais commencer à toucher la troisième qui s'appelle le Rouge et le Blanc.
Sonia, Philippe, qu'est-ce que ça vous évoque, ces réactions? Vous vous reconnaissez d'abord?
Oui, enfin un peu quand même, oui, on est fiers d'être aussi appréciés de gens qui sont des connaisseurs de vin, a priori quand même. Mais le côté effectivement, c'est on n'est pas un journal facile, on s'adresse pas à notre public, c'est pas effectivement l'amateur qui va faire les foires au vin en septembre dans la grande distribution, ça c'est pas du tout notre public. Donc c'est pour ça qu'on est un peu, il y a une forme d'exigence quoi, pour entrer dans le monde du Rouge et le Blanc. C'est vrai que l'amateur lambda qui aime le vin mais qui en boit mais sans s'intéresser à ce qu'il y a derrière le vin, l'univers, le producteur, le sol, le terroir, etc., etc., il va pas lire le Rouge et le Blanc, ça lui sert à rien quoi, c'est pas la peine. Donc c'est vrai que tu comprends qu'il faut faire des étapes.
Il y a une chose que j'ai pas précisé, Philippe, vous êtes le rédacteur en chef de la revue, même si vous levez les yeux au ciel, oui. Au sens où, si j'ai bien compris, les titres sont voilà.
On est dans le rédacteur.
Vous ne revendiquez pas absolument, mais quand même, une revue aussi organisée, il faut bien qu'elle soit un peu structurée.
Il se trouve que moi, j'ai été dans ma vie antérieure dans la presse. Moi, j'ai travaillé 25 ans dans la presse moto.
D'accord.
Un hebdomadaire de moto journal. Donc c'est vrai que. Ça facilite un peu les choses pour gérer le Rouge et le Blanc, enfin gérer la rédaction. Mais c'est très collectif. Monsieur fait partie du.
On va y revenir.
Petit collectif qui dirige la rédaction, enfin qui anime la rédaction plus que la diriger. On dirige pas, on anime. Et c'est vrai qu'on est assez collectif. Quoi.
Sonia, toi, ton rôle.
Alors, je suis rédactrice comme
tu signes,
Philippe.
Tu signes des articles. Tout le monde signe des articles dans l'équipe.
De toute façon, voilà. Pour faire partie de l'équipe, il faut écrire. C'est une des règles. Et ensuite, je m'occupe aussi de la partie abonnement et on a effectivement un espèce de petit sous-groupe qui participe à la sortie du numéro, c'est-à-dire pour faire des mises en page, pour faire des corrections, des relectures, des choses comme ça en fait.
Alors, pour compléter le portrait, combien de lecteurs vous avez, quel est le tirage, le Rouge et le Blanc?
Alors, on va dire qu'on va avoir à peu près 2500 abonnés à la louche, sans compter les dépositaires, et sachant que ensuite, comme j'ai oublié,
Laurent
l'a dit, on sait qu'une revue n'est pas lue par une personne. Il y a toujours, en général, plusieurs personnes qui lisent la revue. Donc voilà, on pourrait pas estimer exactement.
Mais le tirage, c'est chaque trimestre 2500 exemplaires.
Non, c'est 3000.
Un petit peu plus, oui.
Ouais, c'est 3000. Ça. C'est plutôt 3000 parce qu'il y a aussi. Donc ces ventes, Laurent le disait, la librairie gourmande à Paris. Où est-ce qu'on trouve le Rouge et le Blanc? Pas dans tous les kiosques, mais dans un certain nombre de librairies.
Nous sommes en dehors du réseau presse.
Voilà.
Caliste, pas librairie.
Voilà, donc il y a des librairies.
Oui, quelques. Oui, mais
en fait,
pas beaucoup,
il faut nous faire une demande pour devenir dépositaire. Et donc il va y avoir effectivement quelques librairies, beaucoup de cavistes, quelques restaurateurs, voilà. Mal de lycées viticoles aussi.
Et les librairies, c'est des librairies spécialisées comme la librairie gourmande ou la Tanaum à Beaune. Mm. Hein, c'est pas des librairies, les relais ou des choses de ce type-là.
D'accord, parce que c'est, le mode de distribution librairie, par exemple, c'est le choix qu'a fait également 12°5.
Oui, oui, il faut comme un livre.
Comme un livre, ouais. Et comme toutes les revues, 21, de ce type. Donc, les cavistes, demandez à votre caviste, pour ceux qui nous écoutent, demandez à votre caviste s'il a le Rouge et le Blanc.
Les bons cavistes.
Les bons cavistes longs.
Forcément.
Et évidemment, on peut s'abonner.
Oui.
Je crois que j'ai pas dit, c'est 13€ le numéro, un trimestriel, donc 4 numéros par an.
C'est ça.
Et quand on s'abonne, j'imagine que ça doit être un tout petit peu moins cher. Non. C'est le même prix, c'est 4 x 13.
Oui, 4 x 13.
Ah oui,
ouais. Je confirme.
Ah oui. Non, il y a pas de. Oui, ça serait vrai sur un hebdomadaire ou un. Oui, pardon. Ça serait vrai sur un hebdomadaire ou un quotidien encore plus. Mais là, sur quatre numéros, il y a pas d'effet. Il y a pas d'effet de masse, si je puis dire. Et puis on en a pas parlé, mais il y a depuis le mois de juin aussi, on a un certain nombre d'abonnés numériques.
Oui, c'est vrai.
On a une diffusion 100% numérique, qui doit être de l'ordre de 150 aujourd'hui, à peu près, je crois, un peu moins de 150.
Oui, quelque chose comme
voilà,
ça.
Qui sont des abonnés numériques 100%.
Alors, je l'ai pas mentionné également, il y a un site internet qui reprend toutes les unes, dans lequel on a pas mal d'informations. Il y a quelques articles en ligne, je pense, ou des articles qui parlent de la revue. Enfin,
oui, des articles assez pointus, notamment sur la minéralité.
Ah, David Lefebvre.
Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe, d'ailleurs.
Oui. C'est-à-dire que...
Nous aussi. Mais bon.
L'idée, c'est de mettre à la fois certains anciens articles, mais aussi des articles spécifiques au site internet. Et puis, on peut avoir accès à tous nos éditos en ligne.
Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Alors, on va rentrer un peu plus dans la revue, l'histoire pour commencer, et puis évidemment les thèmes un peu d'actualité et ce qui fait le sel, ce qui fait ce qu'on aime en lisant Le Rouge et le Blanc. On a une petite habitude dans cette émission, c'est que on déguste des vins, ce qui est quand même le moindre des choses pour un podcast œnophile. Et puis on a un truc aussi, c'est qu'on demande carrément aux invités d'apporter leur vin, en tout cas de le choisir. Là, vous l'avez
choisi. Parce que comme le podcast ne coûte pas encore 13€ l'émission, il faut bien quand même qu'on puisse survivre.
Ah, si je compte les choses qu'il y a sur la table, ça coûte déjà plus de 13€ à ceux qui l'organisent. Mais voilà, vous êtes deux, et donc je vous ai laissé le choix, pour être complètement transparent. Vous avez choisi de choisir un vin, d'apporter un vin chacun. On commence avec le tien, Sonia. C'est un vin blanc. Que peux-tu nous dire de ce vin?
Alors, en fait, ce vin, je l'ai choisi parce que donc c'est le Grand Cru Zotzenberg, qui est donc le seul Grand Cru en Sylvaner.
En Alsace, donc.
Oui, en Alsace, oui. Je précise, oui.
On n'est pas à Bordeaux.
Non, mais ça aurait pu être Allemagne, je
crois. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça, c'est vrai, je précise, donc, en Alsace. Alors, nous avons déjà parlé du domaine que j'ai apporté, qui est André Kleinknecht. On a fait un coup de cœur, donc, sur son domaine, et d'ailleurs, nous n'avons pas parlé des Sylvaners. Nous l'avons fait exprès puisqu'il va y avoir en fait un article consacré aux Zotzenberg Sylvaner dans le numéro de septembre. Et d'ailleurs c'est moi qui vais le rédiger. Et pourquoi je me suis intéressée donc à ce cru? Parce qu'on a une image du Sylvaner comme un vin facile dans le meilleur des cas, et sinon sur quelque chose qui est plutôt assez vert, sans trop de personnalité. Alors qu'en fait, sur le Zotzenberg, il y a vraiment quelque chose de complètement à l'opposé de l'image, c'est-à-dire qu'on a des vins beaucoup plus denses, beaucoup plus riches, avec aussi parfois une jolie trame saline, des côtés assez salivants. Ce sont des Sylvaners de garde, j'ai eu l'occasion d'en goûter plusieurs, et donc je me disais, bah voilà, c'est un peu pour... on va dire redorer l'image du Sylvaner, parce qu'il y a des très bons Sylvaners. Sachant que avant le passage en Grand Cru, le Sylvaner était le cépage le plus planté, le plus produit en Alsace. Voilà.
Comment vous trouvez ce joli vin d'Alsace? Il me semble, de mémoire, on a déjà eu l'occasion de boire des Sylvaners.
Je pense que le domaine, le monsieur en question, monsieur Kleinknecht, a pas mal travaillé avec Pierre Frick. Au début de son installation. Et celui qu'on avait dégusté, c'était un Sylvaner, mais en vin orange.
D'accord.
En macération. Donc, effectivement, où on trouvait des notes pas habituelles en Sylvaner, mais un peu plus liées à l'élevage, je dirais, qu'au terroir, en tout cas, sur le vin de Pierre Frick.
Oui, mais ces méthodes de vinification de type macération, par exemple, qui sont très intéressantes. Mais, effectivement, on finit par plus savoir si ça vient d'Alsace, du sud, de l'est, du sud, etc. Parce que la technique, enfin, entre guillemets, c'est pas un vin de technicien, je veux dire, mais la technique de vinification passe un peu devant, quoi.
Avant le terroir.
Dans les macérations, oui, parce que c'est tellement prégnant comme méthode de vinification, quoi. C'est quand même.
Mais
c'est intéressant, hein. Je veux dire, c'est pas pour ça que c'est pas intéressant, mais. C'est pas tout à fait pareil.
Philippe, est-ce que justement, à travers ces mots, on touche déjà à quelque chose qui fait partie de la ligne éditoriale du Rouge et le Blanc? Vous êtes attaché au terroir ou c'est juste un enfin attaché au terroir, évidemment que vous l'êtes, mais
plus qu'attaché.
Comment oui. formuler cela ? C'est-à-dire, par exemple, vous faites tout de suite une petite réserve sur le fait que ah tiens, c'est des vignerons qui utilisent la méthode et la méthode passe devant le terroir. Comme c'est un petit regret quand même.
Oui et non, parce qu'on est surtout pas une chapelle nous. Hein, on est d'abord, faut savoir que le rouge et le blanc c'est un mot peut-être un peu galvaudé, mais c'est un collectif et on déguste collectivement. Donc il y a c'est pas un gourou qui déguste un vin comme pourrait le faire dans d'autres revues ou d'autres guides bien connus, un homme seul.
Des noms.
Non, mais
on voilà, va parler après.
Peu importe les guides.
Des revues qui portent le nom de leur dégustateur.
Voilà, voire même des revues qui portent autrefois Parker qui était l'archétype de ça. Nous, on n'est pas du tout comme ça. C'est pas comme ça. Ça fonctionne comme ça depuis le début. On déguste collectivement. Donc, les notes de dégustation qu'on lit dans le rouge et blanc, c'est la somme, la synthèse des avis des uns et des autres.
C'est pour ça que les notes sont moins hautes, en moyenne.
Oui, alors nous, on note comme le bac à l'ancienne, nous. Hein. Nous, 14, c'est mention bien. Hein. Je veux dire, non, mention bien.
Ouais, c'est
oui.
Ça.
Et oui. Non, mais c'est un vin qu'on achète, mention bien. Hein.
Oui.
Et 16, c'est mention très bien. C'est-à-dire, ça doit être exceptionnel. Parce que si on met des 16 à tous les vins, c'est Jacques Martin et le machin.
L'école des fans,
quoi. Je veux dire, tout le monde a 10, quoi. Je veux dire, il y a un moment. Non, mais c'est pas sérieux. Quand on s'adresse à un public qui a besoin de crédibilité, enfin, je veux dire, il faut hiérarchiser les choses, sinon ça sert à rien, si pour mettre 16 à tout le monde, c'est un peu idiot. Donc voilà, nous on est sévère, c'est vrai, mais juste.
Non, mais ça va mieux vaut avoir 12 dans le rouge et le blanc que 18 dans les RVF.
Je vous laisse.
Patrice fait le sous-texte. Quelle note alors pour ce Sylvaner? Enfin, on n'est pas obligé de s'arrêter à la note, mais quel commentaire sur ce vin, donc je le répète, Grand Cru Zotzenberg de Klein Knecht. Un peu difficile à prononcer.
Ça devait être fait pour à la base. pour te tester.
Ah ouais, c'est ça. Non, mais. Comment vous le trouvez, Laurent, Patrice, moi je trouve ça très, très joli.
Mais
très
écoute,
beau.
Moi je trouvais qu'on avait un nez au début très délicat, hein, très subtil. On n'est pas du tout sur une. Enfin, à mon sens, une espèce d'aromatique puissante. On est vraiment sur quelque chose de très léger. Après, en l'aérant un petit peu, bon, évidemment, il dégage un petit peu plus, mais ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas du tout sur un vin. Enfin, l'acidité n'est pas très élevée. On a vraiment quelque chose d'ample. Enfin, c'est pas du tout ce que j'attendais effectivement d'un Sylvaner. Normalement, effectivement, les Sylvaners sont plutôt des vins de soif. Ils sont plantés plutôt en plaine. Enfin, c'est là, on a vraiment quelque chose de complètement différent de ce que les gens ont en tête du Sylvaner. Donc là, on a vraiment un vin qui est super intéressant. Et dont j'aime cette ampleur. Il prend une place en bouche qui est très 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 impressionnante à mon sens.
Patrice,
ouais. Sylvaner en nez peut-être, mais pas en bouche. Enfin, par rapport à l'image qu'on a typique. Après, je trouve qu'on le retrouve un petit peu en fin parce qu'il est assez. Enfin, il est par définition c'est un vin blanc hypatanique, mais il est pas lourd en bouche. On a beaucoup d'amplitude, je dirais, en entrée, et après on a plutôt la salinité et la finesse sur la fin, sur la longueur. Non, moi je trouve ça excellent.
Pardon, Sonia, vas-y.
Non, je disais qu'il y a aussi quelque chose qui est particulier aux Zotzenberg, c'est on retrouve des amertumes, mais des amertumes très douces.
Très légères, oui, effectivement.
Qui apportent, je veux dire, une autre dimension du Sylvaner. Après, parfois, peut-être que dans leur jeunesse, il y a une certaine austérité, mais en vieillissant, ça gagne vraiment beaucoup en élégance. Et là, on est vraiment sur quelque chose de riche, beaucoup plus riche que ce qu'on peut avoir sur d'autres Sylvaners.
Mmh. 2016, c'est ça, je crois.
2016, oui.
Un beau millésime,
oui. Avec plus d'équilibre que 2015, je dirais.
Oui. Une idée d'accord avec un vin comme ça. C'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve très fort dans
déjà, tu peux le prendre à l'apéro.
Ouais. Oui, moi j'aime bien.
De toute façon,
on se moque de moi parce que j'adore dire que j'aime les vins à l'apéro.
Oui, non, mais ça mérite presque plus que ça, je veux dire, parce que
oui, bien sûr.
J'allais dire vin de gastronomie quand même.
Autant le Sylvaner classique, on va dire.
C'est un vin de soif.
Quand il est bien fait, etc. Mmh. C'est plus un peu le muscadé de l'Alsace, on va dire entre guillemets.
Ouais, rafraîchissant.
Et c'est plus ça. Un vin d'apéritif. Là, je trouve que ça mérite. Enfin, c'est pas que l'apéritif soit quelque chose à négliger, mais ça mérite peut-être un peu plus, quoi. Un vrai plat.
Un poisson.
Oui, poisson noble, genre sol, turbo, des trucs comme ça.
Chair blanche.
Je sens bien ça.
Oui.
Même des volailles.
Oui, ou volailles.
Ça passe très très bien sur une volaille.
Fromage, vraiment.
Ouais.
Non, c'est un vin facile, quoi. Facile à placer, en plus. C'est parce qu'il n'a pas, c'est pas une aromatique qui prend le dessus, etc.
Non, pas du
donc,
tout.
C'est plus une
structure. On est vraiment dans la matière. Il y a beaucoup de finesse et effectivement, bon, c'est ce duo entre la finesse et ce volume que ça prend en bouche.
Mais c'est ça, c'est vraiment caractéristique du cru, c'est-à-dire cette richesse avec toujours de la tension. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur de l'opulence, loin de là.
Mais c'est vrai que ça doit être compliqué à goûter. Si on fait goûter ça à quelqu'un qui connaît un peu les vins d'Alsace, on reconnaît le Sylvaner à l'aveugle. Pas évident, je pense.
Alors,
on remarque l'Alsace, c'est facile parce que le Sylvaner, le Gewürz, ça sent fort le Gewürz. Le Riesling, c'est quand même relativement facile. Bon, c'est vrai que c'est. Donc, par élimination, ça doit être du Sylvaner.
Si on sait que c'est
si on voit la forme de la bouteille.
Oui, surtout, si on voit la.
Parlons donc maintenant un peu de l'historique. Comment est née cette idée de fonder une revue en 1983, de fonder une revue d'œnophile sur le vin, exigeante, avec un modèle d'emblée associatif, en tout cas dans l'esprit, pas de publicité. Qui étaient les créateurs et quelle était l'idée qui les animait?
Alors les créateurs aujourd'hui, il y en a plus. En activité dans la revue, parce que d'abord ils sont un peu hors d'âge, hein. Non, parce qu'ils avaient 83 et ils n'avaient pas 18 ans en 83, hein. Donc et on a encore un des fondateurs là, qui vient régulièrement, non pas dans le travail du quotidien, mais qui nous suit encore, Bruno Gentil, qui est un des membres clés et fondateurs, qui vient encore régulièrement dans les assemblées générales ou parfois même dans des dégustations parce que ça l'intéresse ou je sais pas quoi, mais bon. Les autres, non. Les autres ne sont plus membres. Mais il y a encore quelques membres anciens. Michel Bétane, hein. Michel Bétane est un actionnaire du Rouge et le Blanc. Hein, encore. Oui. Il a encore son action dans le Rouge et le Blanc. Son action qui ne vaut pas très cher. Hein. Mais néanmoins, il est associé. Il fait partie des 22 associés.
Il a été 22, rédacteur. Hein.
Et il a été rédacteur. Puis à un moment, bon, il a fallu qu'il choisisse quand même entre la grande presse et la petite presse. Et il a choisi la grande. Pour son portefeuille, c'était sans doute mieux. Donc voilà. Alors pourquoi ils ont fondé ça? Parce que en gros, eh ben ils trouvaient pas leur bonheur dans ce qu'il existait. D'abord, il n'existait pas grand chose.
C'est ça. Le paysage n'était pas celui qu'on a aujourd'hui.
Il n'y avait pas. Bon, il y avait la RVF, c'est vrai.
C'est sûr.
Et puis à côté de ça, il y avait. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Je crois qu'il y avait rien. Alors, 83. Il y a peut-être si les guides annuels, il y avait le point et qui faisait un spécial vin. Alors, est-ce qu'en 83, oui, sans doute déjà. Il y avait un spécial vin annuel qui était fait par Jacques Dupont, je pense, à l'époque déjà. Il y avait un autre titre comme ça qui faisait, bon, peu importe. Enfin, il n'y avait pas grand chose.
Et il n'y avait pas de revue. Je me rappelle qu'Antoine Gerbel nous avait dit ça, qu'à ses débuts, il n'y avait pas de revue régulière dans la presse généraliste sur les vins, ce qu'on trouve aujourd'hui.
Ah oui, en plus, oui. Ah oui, en plus,
la presse généraliste,
tous les ans, l'Express fait un spécial vin, Le Point fait un spécial vin encore, etc., etc. Donc, c'était Gomillot qui faisait un spécial vin annuel aussi, qui était pas mal pour l'époque. Bon, donc, ils étaient pas satisfaits de l'offre. Et voilà, et donc ils se sont regroupés en disant on va faire notre journal dans lequel notre revue dans laquelle on dira enfin ce qu'on aurait envie de lire ailleurs, on va le mettre dans notre revue. Et en particulier déjà effectivement ce côté anti-vin industriel, anti-vin très commercial, évidemment aujourd'hui ça paraît évident, à l'époque ça l'était moins parce que c'est pas une idée qui était à peine émergente, je dirais. Mais voilà, ils avaient la foi des moines fondateurs et puis ils ont lancé leur truc et ils sont ceux qui sont encore là qui nous suivent, ils sont très contents que ça continue et voir que leur idée de départ qui était sans ambition marquée, hein. Ils pensaient pas qu'ils allaient devenir le plus grand titre de la presse mondiale, mais vit toujours et est de plus en plus estimé et reconnu dans le monde du vin, quoi. Donc ça, c'était une bonne idée.
Le Rouge et Blanc, c'est une revue qui est assez discrète. Les membres sont assez discrets aussi, globalement. Après, il y a quand même François Morel qui a passé pas mal de temps, qui est un peu connu parce qu'il écrit pas mal.
Voilà, oui, bien sûr. Il y a eu quelques vedettes, entre guillemets. Non, mais surtout lui, c'est vrai qu'il a une grosse influence sur, il était mon prédécesseur, rédac-chef, mais il a une grosse influence quand même sur
la structuration.
L'état
d'esprit.
L'état d'esprit et la rigueur. Et puis, il a la façon de déguster, l'exigence, etc. C'est quelqu'un d'être très exigeant, envers les vins, je veux dire. Et envers les gens aussi, parfois. Mais il a donné vraiment parce qu'il a été longtemps, je crois qu'il a été au moins 15 ans au moins, non mais rédacteur, je crois qu'il a été au moins 15 ans ou pas moins de 20 ans.
Il restait plus.
Après il était dans la revue, pas rédacteur. Et donc il a eu une influence forcément importante dans l'esprit du rouge et blanc, ça c'est clair.
François Morel qui signe encore des papiers, hein, je prends l'avant-dernier numéro, il y a le portrait de quatrième de couverture.
Oui, non, mais même il fait des
Pierre
articles.
Gallet.
Il a fait un article sur des vins italiens avec Emmanuel Zanni régulièrement. Il fait un article tous les deux ans, etc. Même s'il ne fait plus officiellement partie de la revue, mais il n'est pas.
Qui a écrit notamment le vin naturel, qui est, je pense, un bon bouquin à conseiller.
A été,
sur, oui, bien sûr. Si on veut avoir une première approche du vin en biodynamie, en tout cas.
Alors, justement, on l'a déjà un petit peu évoqué. Comment ça fonctionne et comment ça marche? On a des rédacteurs, un comité de rédaction. Il y a combien de personnes en tout?
Une quinzaine,
je pense. Et il y a ce qu'on aime découvrir et retrouver dans la revue, c'est vos voyages. Alors, vous allez dans le vignoble, il y a la petite rubrique « Les vins que nous avons dégustés ». Donc, c'est là qu'on a les notes de dégustation et des portraits. Par exemple, on rentre dans une appellation et vous faites des portraits. Vous avez sélectionné un certain nombre de domaines dans lesquels vous allez faire des dégustations. Comment tout ça se construit, s'organise? Vous partez à 15, vous partez à 4. Comment vous choisissez les appellations?
Alors effectivement, il y a parfois des exceptions, mais à minima, on se déplace deux fois dans le vignoble avant d'écrire. Donc il y a une première fois où on va se déplacer pour, par exemple, la présélection, ou bien tout simplement pour prendre des renseignements. Ensuite, on fait une dégustation collective, et à partir de la dégustation collective, on sélectionne un certain nombre de domaines, et là, on retourne dans le vignoble et on va voir ces domaines-là.
D'accord. En fait, les sujets sont déterminés dans un comité de
rédaction.
Réunion de rédaction, on va dire. Mais qui n'est pas hebdomadaire. Mais on essaie de le faire au moins un mois, ou tous les un mois et demi, deux mois. Ou dans lequel on débat des sujets à faire, quoi. Chacun des envies, mais après on aménage les envies, parce que si tout le monde a la même envie en même temps, bah ça
devient
marcher.
Un projet.
Ouais. Et après, effectivement, une fois qu'il est validé, ce projet, c'est pas des procédures très lourdes, hein. Mais une fois qu'il est validé, c'est parti, quoi. Effectivement, comme l'a dit Sonia, en deux étapes, quoi. Une étape de première investigation, voire de présélection. Après les dégustations collectives anonymes, évidemment, à l'aveugle. Et après, ce qu'on pourrait dire, l'enquête sur le terrain, quoi. C'est-à-dire les domaines, mais aussi éventuellement des œnologues, des, je sais pas quoi, des connaisseurs, des géologues, selon, quoi. C'est très,
là, c'est très une
enquête. C'est comme une enquête.
Disons qu'on va pas seulement se limiter, je dirais, à la dégustation pure. On fait vraiment un travail de recherche. À la fois, on essaye d'avoir des contacts sur l'histoire, sur la géologie. On essaye vraiment d'approfondir dans l'idée, justement, que ces articles puissent être, comme vous le disiez, relus, en fait.
Mais quand il faut pas oublier, on passe, par exemple, pour une appellation à peu près moyenne, classique, on passe une semaine sur place.
Enfin, enquête. À combien de personnes, justement?
Deux.
Vous êtes général
de, oui, c'est
deux
rarement
ou trois.
C'est rarement trois, mais souvent deux. Ça, ce qui est relativement nouveau, le fait qu'on soit deux systématiquement, c'est relativement nouveau sur les 38 ans, ou je sais pas combien d'existence, c'est depuis 5-6 ans, hein, pas plus, ça. Avant, c'était plutôt tout seul. Donc, voilà, une semaine à deux, quoi. Je veux dire, c'est du travail d'investigation quand même poussé. Et, d'où le respect qu'ont les vignerons en disant, pour nous, honnêtement, je crois qu'on est assez respectés. Même si parfois il y en a qui nous trouvent sévères, parce qu'ils voient qu'on travaille, hein, et on se contente pas de goûter 120 dans la journée au syndicat et puis de faire un article sur l'appellation comme font beaucoup d'autres.
Juste après avoir bu le centième.
Non, mais c'est pas pareil, quoi. Là, on part pas du temps dans les vignes, on va dans les vignes, on sait d'où vient le vin, etc., etc. Quoi.
Et il vous arrive d'exclure des domaines dont vous avez quand même apprécié les vins,
c'est-à-dire
de finalement, entre l'adéquation entre la dégustation et ce que vous ressentez au moment de la visite du domaine.
Ah, bonne question. C'est une très bonne question parce que
ma propre sélection est quand même basée, tout à fait modestement,
sur une rencontre,
entre la satisfaction ou le plaisir que je prends à la dégustation du vin et une espèce de de feeling avec avec le domaine.
Est-ce que c'est la rencontre du vin ou la rencontre du vigneron qui décide?
Alors, c'est la rencontre du vin d'abord, parce que on déguste à l'aveugle et on met des notes valent ce qu'elles valent, mais on met des notes, des commentaires et effectivement...
Toutes les dégustations, y compris quand vous êtes au domaine, sont faites à l'aveugle.
Ah non, mais non, au domaine on déguste pas dans le but de noter des commentaires,
de commenter les notes.
Sauf si c'est, on peut toucher deux mots, grand goutte au fût, le millésime qui est pas encore en bouteille, voilà, on peut en dire, ah, c'est prometteur, voilà, mais deux mots. Mais donc, c'est, le premier élément, c'est le vin, quand même, hein. Alors, il y a des domaines qu'on connaît, une fois qu'on a découvert la bouteille, ah oui, ouais, ça m'étonne pas, il est bon, ok, et puis, quelquefois, il y a des domaines qu'on connaît pas, ou très peu, et qui ont été appréciés, qui ont eu 14, 15, qui pour nous est une bonne note, hein, je rappelle. Et là, on essaye de se renseigner, quand même, parce que, est-ce que on se fait avoir entre guillemets par une technique vigneronne qui est flatteuse, ou est-ce que c'est quelqu'un qui travaille sérieusement et qui bon, et on essaye, si on se renseigne, de pas aller voir celui qui pourrait être suspect d'avoir fait un vin qui est buvable, hein, très bon, mais qui correspond pas tout à fait à ce qu'on a envie de défendre comme viticulture ou comme méthode de vinification. Donc il se peut que des vins qui est 14-15, on n'aille pas les voir, on ne va pas voir le domaine.
Alors, je rebondis sur ce que dit Philippe. Nous avons déjà été confrontés à ce type où on a ressorti un vin qui pouvait, pour des raisons X ou Y, ne pas correspondre exactement à ce que nous défendons. Mais en général, on essaye toujours de savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des débats là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a attiré dans ce vin, pourquoi finalement il est ressorti. Et par contre, on ne va pas... décider de parler d'un domaine parce que on a un feeling ou un truc, ça c'est pas, par contre ça va pas entrer en ligne de compte. Ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est vraiment la façon de travailler.
On n'est pas sectaire, c'est-à-dire que moi en tout cas personnellement je le suis pas, j'espère, même si j'ai des goûts etc, mais quand je dis on n'est pas sectaire, ça se parle le rouge et le blanc. C'est pas parce qu'un vin n'est pas 100% bio, biodynamie, et voire met peu de soufre, etc. C'est pas pour ça que s'il ne le fait pas, il y a heureusement des bons vins qui ne font pas ça. Enfin, heureusement. Et il faut pas les condamner, quoi. Parce que si on commence à entrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire on devient idéologique. Hein, c'est-à-dire que il est bon, mais oui, mais c'est pas possible qu'il soit bon.
Oui,
quoi,
il faut plutôt avoir une démarche esthétique, en fait.
Oui, voilà.
Pas gustative et pas pas de morale, quoi.
Non, il faut pas. Après, il faut faire attention de pas se faire avoir par une astuce technique, si je puis dire. Mais voilà, tous les grands vins ne sont pas forcément bio, biodynamie et peu de soufre.
C'est agréable à entendre parce que on est quand même, je trouve que le monde du vin est
un peu trop
est secoué
quoi,
par des, oui. Enfin par des guerres de chapelle. Hein. On a vraiment des idéologies et c'est un peu triste.
Est-ce que juste une question un petit peu off, vous appelez le rouge et le blanc, est-ce que ça veut dire que vous n'aimez pas le rosé?
Non, je ne sais pas pourquoi ce nom a été choisi. Enfin, je pense que c'est basique, le rouge et le blanc, mais
il y a eu un numéro qui s'appelait Le rouge et le blanc fait son rosé. Il y a eu un numéro.
Il y a eu un numéro sur le rosé. Ma question.
Il y a eu un numéro spécial sur le rosé une fois, mais il y a
au moins 20 ans. Voilà, c'est quand même pas. Tient peut-être aussi à l'époque à laquelle ça a été lancé. Est-ce que vraiment le rosé était considéré comme un vin en 83?
Oui.
C'est une bonne question.
Hein, moi, j'ai des doutes personnellement.
Non, mais aujourd'hui encore, honnêtement.
Le débat est lancé.
Donc.
Non. Aujourd'hui encore. Petite question off, Patrice, mine de rien, il balance un débat.
Je vais prendre une région que je connais bien, entre autres, mais la Provence, puisque je suis à moitié varois, moi. Et donc, il faut savoir que la Côte de Provence, c'est une appellation qui fait 90% de rosé. 90%.
C'est une émission sur le sujet.
C'est affreux, quoi. Enfin, c'est affreux.
Oui, c'est dramatique.
C'est dramatique, quand même, d'arriver là. Ça, bon. Donc, sur ces 90% de rosé, il y en a quand même 85% qui sont médiocres, hein. Faut le dire, quoi.
Médiocre, c'est quoi? C'est 8? 5.
Au moins de 12, on s'en occupe pas. Non, mais voilà. Donc, c'est des vins qui sont, honnêtement, sans grand intérêt, quoi. Malheureusement, hein. Mais heureusement, parmi ces 90% de rosés de Provence, il y a quand même des trucs excellents, qui sont remarquables. Brandoles, palettes, machin, etc. Il y a plusieurs appellations. Il y en a quelques-uns.
J'ai eu beaucoup d'émotions en rosé, mais c'est vrai que le rosé de Dominique Ovette.
Oui,
son rosé à base de Syrah, c'est quand même quelque chose.
Un rosé de Pfifferling, Langlois, c'est pas mal.
Mais personne ne voit ça comme un rosé dans le gros de la population.
Mais là, c'est ça le problème, c'est que le rosé doit être transparent. Quoi. Bref, bah enfin.
Pour donner une idée un petit peu, j'ai pris l'avant-dernier numéro. Celui qui a pour couverture les vins de voile, Domaine Béra et un dossier sur Juliena en Beaujolais. Juste pour donner une idée, en fait, c'est un dossier qui fait 12 pages. On a d'abord un papier introductif avec une belle carte du vignoble qui nous indique les sols sur granit, les sols de roches volcaniques siliceuses, sols de pierre bleue. Donc, on sent qu'il y a du, voilà, il y a vraiment du travail. La superficie de la AOC Juliena, en bref, il y a tout un petit encadré de chiffres. Ensuite, on a 7 domaines sur lesquels il y a un focus avec une présentation du vigneron, quelques photos qui illustrent, on parle de tel domaine, tel domaine, tel domaine, 7. Et ensuite, on a 35 vins qui ont été dégustés, donc à l'heure, si j'ai bien compris le fonctionnement, de la présélection. C'est-à-dire, vous avez commencé par ces 35 vins.
Non. 35 vins qui sont notés.
Oui. Donc, vous avez goûté plus que
oui.
ça.
Oui.
On élimine les vins qui ont moins de 12 ou 13, ça dépend des fois.
Alors, en fonction du niveau, ouais. pardon, du niveau général de la dégustation, parfois quand le niveau est vraiment très bon, on monte à 14, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas eu 14 n'apparaissent pas.
Si je prends Juliena, là, ça veut dire, vous avez goûté combien de cuvées,
alors
en
là,
fait?
Alors là, faudrait qu'on s'en souvienne, je sais plus combien on a fait de sessions.
Non.
On a fait combien de sessions?
En général, là, il y en a 35 retenus à peu près, c'est
oui,
ça?
Oui.
Oh, il devait y en avoir 50, 60, quoi.
Oui. D'accord, oui.
Et qui se charge de cette première liste?
Sachant que, justement, voilà, je réponds à ta question. Au moment où on va sur place, on essaye de partir à minima à 2 et parfois à 3 parce que c'est plus facile pour voter, en fait. Et on va goûter donc beaucoup plus d'échantillons. Et là, c'est la présélection qui va servir à la dégustation collective.
D'accord.
Et généralement, c'est les auteurs de l'article avec une troisième personne qui ne va pas rédiger au final. Et ensuite, lors de la dégustation collective, vont ressortir les vins qui apparaîtront dans la revue.
Et alors, j'ai une petite question par rapport à ça. Vous avez une grille commune de notation ou c'est une notation très personnelle parce que justement, vous êtes tous des individus et vous avez votre propre méthode de notation?
Alors, on en a mis une un peu, je dirais, par la force des choses. C'est un de nos collègues qui nous l'a dite. C'est par exemple, 14, j'en bois. 16, j'achète une caisse. 18, je remue ciel et terre pour en trouver. Voilà. Mais bon, c'est l'idée. Voilà.
D'accord.
Mais bien sûr, avec nos critères subjectifs à chacun.
D'accord. Il n'y a pas une méthode type WSET.
Non, pas du tout. Alors là, vraiment pas.
Pour un exemple, hier soir, on avait une dégustation de vin du Jura.
Oui, c'est vrai.
À forte personnalité, va-t-on dire.
Oui.
Forte personnalité, forcément, divise.
Débat.
Voilà, donc forcément. Et donc, les notes peuvent aller, s'écarter beaucoup, quoi. Et
sur un Savagnin, ça allait de 7 à 18, quoi, c'est ça?
Là, ça a été plutôt sur les rouges, les rouges qui étaient assez rosés, d'ailleurs, les Poulsards
ouais.
et les Trousseaux. Voilà, donc, après, il y a les sensibilités de chacun, puis on est toujours étonné. Mais toi qui aimais ça, tu aimes pas ça, je comprends pas.
Est-ce qu'il y a des débats vifs et animés?
Oui, parfois.
On va pas se taper dessus, hein. Mais
est-ce qu'il y a des chapelles à l'intérieur de la rédaction?
Il y a des petites tendances, quand même. Il y a des gens qui sont plus sensibles au vin très nature, d'autres qui sont moins, d'autres qui sont, voilà. Mais comme c'est un collectif, ça finit par se fondre, je veux dire. Donc, alors, on note quand même normalement dans les commentaires dégustation, quand il y a un gros écart,
moyenne
14, noté de 10 à 16.
Oui, toujours,
parce
on signale.
Ça veut dire quelque chose. Mais après, on le retrouve dans le commentaire de dégustation, le commentaire écrit, rédigé, normalement.
Sur la dégustation, il n'y a pas une école qui domine entre le géosensoriel...
Non.
Non.
On est plus problématique que ça.
Oui.
Non, mais bon...
On a tous une culture vin qui n'est pas la même,
ouais.
évidemment.
Alors, justement, oui.
On n'a pas les mêmes sensibilités. Après, on essaie justement d'être au plus juste et de retranscrire. Comme l'a souligné Philippe, quand il y a des écarts, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce vin...
Est clivant.
Oui. Donc, il faut que ça transparaisse aussi pour nos lecteurs.
Voilà, le lecteur qui supporte pas la volatile, si on lui dit « il y en a qui ont apprécié la volatile, qui donne de la fraîcheur », lui va se dire « bon, voilà, il n'y avait pas, quoi ». Ça peut être clivant, voilà.
Sur cette approche, justement, tu le disais, on a tous notre sensibilité. Quelle est la part des rédacteurs, dégustateurs qui sont des professionnels de la filière vin? Quand tu dis on part à deux dans le vignoble pendant une semaine, alors soit ils sont retraités, soit ils travaillent pour le rouge ou le blanc, mais a priori, ils sont bénévoles. Comment ils se rendent disponibles?
Parce que nous on aimerait bien faire les émissions chez le vigneron, mais on peut pas. si on veut gagner notre vie.
Eh bien,
une semaine.
Pour les retraités, bon, je pense que vous avez la réponse. Et pour, non, mais,
c'est-à-dire, est-ce qu'il y a la moitié des rédacteurs sont retraités ou sans activité à côté?
Je dirais
ou...
un peu plus que la moitié.
Les deux
un
tiers.
Ouais, à peu près.
Alors, on a... C'est bien parce que ça donne aussi l'idée de gens qui ont dégusté et qui s'improvisent pas dégustateurs.
On a un retraité de la SNCF, donc il était plus jeune, lui.
J'étais sûre que
t'allais
être petit. Oh là là.
Ami fonctionnaire.
Ouais,
on vous embrasse.
Je sais que Philippe. Elle,
ne Sonia pas... ne cautionne pas. Je vois tout de suite à ses yeux.
Pour plaisanter.
Mais, et pour la partie, on va dire, jeune actif, eh bien, on prend sur nos vacances.
Ouais. Là, c'est voilà. Le sacerdoce, là, quand même. Ouais.
Bah, bon, c'est la passion.
C'est la passion, oui, tout
voilà,
à fait.
C'est la
oui,
passion.
Et a priori, la fréquence, la fréquence n'est pas si élevée non plus, puisque.
Oui, c'est un trimestriel.
Ah, oui,
c'est
un trimestriel. Sur un mensuel, ce serait plus dur.
C'est vrai qu'il faut juste la passion soit partagée par le conjoint ou la conjointe, quoi. C'est le seul truc.
Je confirme.
Je peux avoir une petite remarque qui est peut-être désagréable. Je trouve pas beaucoup de prénoms féminins.
Merci d'avoir dit cette phrase.
Tu es la seule, Sonia, ou vous êtes quand même...
Non, la bonne nouvelle du jour, c'est que il y a une deuxième rédactrice qui est rentrée dans la revue, mais qui n'a pas encore rédigé. Et oui, je partage tout à fait votre avis.
C'est l'hôpital qui se moque de la charité, parce que je pense que...
Oui, c'est moi, je suis la seule fille aussi aujourd'hui.
Non, puis oui, eux non plus. Hein.
Oui, ah, tout à fait.
Ce soir. Nous sommes 50-50 sur l'ensemble de la...
On y tient un petit peu. 50-50, c'est un peu généreux, non. Patrice. On 60, est plus 40, de garçons là. Que de filles, mais généralement, il y a toujours une fille au micro chez nous. Mais bon...
Blague à part, parce que c'est un sujet sérieux.
C'est un signe des temps aussi, 1983, est-ce que depuis aujourd'hui...
Non, mais c'est pas seulement ça. C'est que dans le monde du vin aujourd'hui... Moi, par exemple, je fais partie de pas mal de groupes de dégustation, hors rouge et blanc, hein, des amateurs qui se réunissent, qui font des dîners, on déguste.
Des heures sup, quoi.
Je fais des heures sup. Non, mais c'est aussi une méthode de recrutement potentiel, parce que
on de découvre, rédacteur.
Oui, on découvre des gens. Ah, tiens, il goûte bien, il a l'air de vraiment. Et ce monde-là est terriblement masculin. Donc, il y a jamais pratiquement de dîner où il y a des femmes. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Alors.
Ça bouge un peu ces dernières années quand même. Il y a des initiatives, il y a beaucoup de.
Oui, heureusement. Non, mais je veux dire, la majorité quand même. La majorité du monde du vin est quand même extrêmement encore masculin, quoi. Hein, encore. Et donc, on aurait beau chercher à recruter des femmes, la population potentielle est beaucoup plus faible.
Il y a aussi un peu d'anonymisation de la femme parfois. Enfin, j'ai un exemple d'une amie. Enfin, son mari est vigneron. Elle travaille dans le domaine nature. Et un journaliste va les voir. Une demi-heure d'interview du mari, une demi-heure d'interview de la femme. L'article sort. Il y a que les propos de l'homme qui sont retranscrits. Donc la presse, parfois, la presse en général, ce cas-là, a tendance aussi à parfois mettre un peu de côté. Consciemment, inconsciemment, j'en sais rien. Cela, mais bon, il y a aussi un petit peu, parfois, une mise à l'écart de ça.
Il y a un biais. Alors après, ça me rappelle justement la une qu'on avait fait sur le domaine Orio où on voyait donc Marie, alors qu'on la voit jamais, parce que elle fait partie intégrante du domaine et bien plus ce qu'on pourrait le penser. Après aussi, il y a autre chose chez nous qui est important, c'est que pour pouvoir rentrer à la revue, il faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille pour des vignerons dans la com et qui, par exemple, par ailleurs connaît très bien le vin, bah, pourra pas rentrer dans la revue. Voilà, il y a aussi ça aussi. Qui serait super.
Bien sûr. Mais voilà. Donc, effectivement, il y a pas mal de femmes quand même qui commencent à bosser dans le vin, mais malheureusement, elles sont beaucoup liées professionnellement par un côté communication ou autre, et donc ça bloque un peu le potentiel.
Mais bon, on retient qu'il y a une volonté d'avoir plus de femmes.
Je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on passe à un deuxième vin, même si ce Sylvaner est très attachant, mais on a l'habitude de faire deux vins, donc on va aller chercher celui que tu as apporté, Philippe.
Alors moi, j'ai choisi, je peux en parler là.
Ah bah oui, c'est ça.
J'ai choisi, justement, un peu exprès, un vin de Pontécanet, qui est le deuxième vin de Pontécanet, mais j'expliquerai parce que...
Donc on est à Bordeaux.
On est à Bordeaux, à Pauillac. Et donc, Pontécanet est un domaine que je connais vraiment très 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 bien, parce que j'ai eu la chance d'y aller très souvent et que me lier d'amitié avec Jean-Michel Combe, qui vient de quitter d'ailleurs Pontécanet, qui était le régisseur de Pontécanet pendant plus de 20 ans. Et c'est un domaine pour moi qui m'a fasciné par l'ampleur de la tâche qui s'est assignée. Donc c'est Jean-Michel Combes qui était le moteur, puisque il a donc transformé Pontécané en un domaine biodynamique. Les domaines de Bordeaux, c'est quand même en moyenne souvent 60-65 hectares, hein. Donc c'est pas le petit domaine. C'est pour ça que j'ai pris ça pour Kleinknecht, c'est le petit domaine traditionnel en biodynamie aussi, etc. Mais c'est vraiment le côté petit artisan, quoi, hein, comme il y en a beaucoup, hein, en Alsace et ailleurs. Là, on est dans le gros domaine, mais c'est intéressant justement pour voir que même un gros domaine peut faire des vins extrêmement propres et en biodynamie plus que sincères. Moi, j'étais fasciné par le travail accompli parce que depuis donc 2005 où il a 2004 où la conversion a commencé avec un accident en 2007 parce qu'il y a eu un problème de milieu et ils ont craqué, ils ont traité légèrement mais ils ont traité donc ça a remis en jeu la certification. Mais c'est l'ensemble qui est absolument fascinant, c'est tout est mis au service du vin à Pontécané. Pas du tout, c'est l'image du Bordeaux, des grands noms Bordeaux que tout le monde connaît, Mouton Rothschild, etc., etc. C'est l'inverse, c'est des vins de marque commercialisés, etc., vraiment des vins de industriels, entre guillemets. Là, on est dans l'artisanat, mais l'artisanat sur 60 hectares, quoi.
80
et, ou peut-être 80.
80,
je sais pas précisément le chiffre.
J'ai fait une petite étude.
Et tout est mis au service du vin, mais dans les moindres détails de l'électricité, des nouveaux chais qui ne passent plus dans les pour éviter que le vin soit troublé, dans la façon de dégrapper avec des doubles pas filtres mais égrappoirs qui a deux enfin c'est dans le moindre détail, c'est pas le travail au cheval, c'est un truc de fou quoi. Plus de la moitié de Pontécané aujourd'hui, plus de la moitié est travaillé au cheval. Donc il doit y avoir maintenant une quinzaine de chevaux. Hein. Tout est travaillé au cheval. Alors, quand je dis travaillé au cheval, c'est-à-dire qu'il remplace, parce que Pontécané, c'est pas le petit artisan et c'est pas le type avec sa charrue derrière sous la pluie. Hein. Les types, ils sont dans un tracteur en fait, enfin, un bâti de type tracteur traîné par des chevaux. Et ils passent les traitements biodynamiques et pulvérisation ou les labours. Enfin,
la biodynamie avec les moyens de Bordeaux, ça fonctionne.
Ben oui, parce que
ils ont les moyens pour le coup.
Oui, ben, c'est évidemment. Alors, il a eu la chance parce qu'il faut quand même rendre hommage à Alfred Tesseron, le propriétaire, parce que c'est bien gentil d'avoir des idées, mais il faut que le propriétaire suive parce que ça a un coût, ça a quelque chose. Sauf que le coût, ben, le propriétaire, lui, il voit le chiffre en bas à droite en fin d'année, hein, et il voit que Pontécané autrefois, en primeur, c'était 25 euros, et que maintenant, ça frôle les bonnes années 100 euros. Ah ben là, il est content, même s'il a rendement un peu baissé. Et j'ai amené le second vin, parce que ça, c'est très intéressant. Les Hauts Pontécané, donc c'est le second vin de Pontécané. Moi, j'ai eu un long échange avec Jean-Michel Combes, qui m'a dit, Philippe, il y a un truc, je comprends pas. Tous les grands Bordeaux, Mouton, Rothschild, etc., Latour et compagnie, ils font jusqu'à 20% de second vin. Je comprends pas, parce qu'ils me disent, on a les plus grands terroirs, on a les meilleurs vignerons, on a les meilleurs tout, quoi, les meilleurs œnologues. Ils déclassent 20% de leur vin. Mais pour moi, ce serait un échec, quoi. Ça veut dire que il y a un problème dans le travail, quoi. Moi, ma parcelle la plus faible, je passe deux fois plus de temps. Comme un enfant qui est un peu moins doué, on l'encourage plus, on l'accompagne plus. Donc moi, mon but, c'est de faire 100% de grand vin. Ce que fait Pontécané de plus en plus. Donc, il dit le second vin, il dit, mais c'est le même que le premier, mais bon, voilà, je suis obligé commercialement d'avoir un second vin, donc.
Oui, c'est ma question. C'est quelques bouteilles de second vin, mais à Pontécané, qu'est-ce qui détermine le second du premier? C'est les parcelles, c'est la qualité du raisin au tri, c'est quoi?
Honnêtement, là, c'est quasiment rien, quoi.
D'accord. Là, vous dites qu'on boit un Pontécané à 30 euros, quoi.
Voilà.
Tout ça, c'est bien.
C'est un millésime 2014, Cabernet Sauvignon.
Il doit y avoir deux tiers, un tiers, à peu près. À mon avis.
Un tiers de Merlot et deux tiers de Cabernet Sauvignon.
Ils ont du petit verre d'eau aussi, mais je sais pas s'ils l'ont mis dedans.
Ouais, il y en a un petit peu.
Il y a 2% du domaine.
Moi, j'ai pris un petit verre d'eau entre les deux.
Ah, nous aussi.
Patrice, Philippe, Patrice.
Laurent.
Laurent
aussi, éventuellement.
Philippe est là. Il y a deux Philippe dans la pièce, pour tout vous dire. Je suis perdu. Laurent.
Moi, je suis bluffé par cette sensation de légèreté. On est sur un Bordeaux qui donne une impression, alors c'est très à la mode, la digestibilité, je sais pas, mais on a quelque chose d'une légèreté incroyable.
On a le velours sans la lourdeur.
Voilà, exactement. Voilà, tu as trouvé les mots.
Oui, parce que normalement, Pauillac, tout le monde dit, il faut 20 ans avant de goûter un Pauillac. Là, c'est un vin qui a que 6 ans. Il est abordable. Peut-être qu'il s'améliorera, mais c'est abordable. C'est juteux, c'est abordable. Alors, il y a aussi une révolution, parce qu'il n'y a pas que la viticulture. Il y a aussi la vinification de Pontécané qui a énormément changé depuis les débuts, les débuts de la nouvelle ère, c'est-à-dire depuis 2004-5. Donc, classiquement, dans tous ces domaines qui travaillent bien, ils font moins d'extraction. Donc, moins de pigeage, moins de remontage, mais moins de manipulation de mou. Ça, c'est la première chose. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus infusé, aussi un peu à la mode. Et l'autre élément révolutionnaire un peu pour Bordeaux, c'est qu'un tiers du vin ne passe pas en bois.
Oui.
Pour Bordeaux, c'est quasiment une révolution. Hein. Mmh. Donc, c'est des...
Ils ont des cuves béton, je crois.
On appelle ça des amphores, mais c'est pas des amphores au sens réel du terme. C'est des cuves béton qui ont une forme d'amphore verticale et la forme, quoi. Mmh. Très grosse, hein, des gros volumes. Un tiers du vin. Donc, c'est pas négligeable. D'où ça, je pense que ça joue aussi sur la tactile
texture,
en bouche.
Ouais, la texture, ouais.
La texture est vraiment très...
C'est vrai que moi, le Pontécané, j'en ai acheté quelques bouteilles. Et c'est vrai que la première réaction quand j'ai bu le Pontécané, j'ai trouvé ça, entre guillemets, maigre. Parce que j'avais tout le référentiel d'extraction, de boisé, etc. de Bordeaux. Et c'est qu'en buvant la deuxième bouteille, on va dire, il a fallu faire le premier travail de déconstruction.
Ta vie est dure, parce qu'on, je sens. Là, franchement, t'as fait des efforts incroyables.
Oui.
Là, tu t'es sacrifié, t'as essayé une deuxième bouteille.
Oui, mais enfin, pas sur...
Pas le même soir.
Pas le même soir.
C'est les poupées russes à l'envers. Elle a commencé par un demi-litre, la bouteille. Exactement. Et le magnum.
Non, mais c'est vrai que c'est qu'à la deuxième dégustation, on a pu apprécier. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il y a un petit travail de déconstruction aussi de Bordeaux, parce qu'on a ses référentiels de goût, etc. Et quand on malogue, il y a l'étiquette, hein. Donc, au moins pour Pontécané, on se dit, c'est un peu vert, c'est un peu maigre, c'est un peu la première. Et puis après, quand on reboit, qu'on trouve la tension, beaucoup plus de finesse, etc., c'est là où on l'apprécie. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit travail de déconstruction gustatif à faire au début.
J'ai fait goûter à 2012, là, récemment. Il en restait un petit peu, effectivement. Mais j'ai fait goûter 2012 à deux personnes. Mon fils, déjà, qui est bon connaisseur en vin aussi, qui est tout jeune, qui a 25 ans. Et puis un autre qui est quelqu'un du Rouge et Blanc qui était venu séjourner chez moi, et leurs réactions sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que c'est à l'aveugle, c'est amusant comme tout le monde, on fait goûter les vins aux copains à l'aveugle quand on les reçoit. Alors vas-y, dis-y, c'est quoi? Ah écoute, c'est bizarre parce que c'est assez puissant, donc ça fait penser à un vin un peu du sud, mais en même temps il y a une finesse qui me fait penser à du Bourgogne. Si c'est un Bourgogne, c'est quand même bizarre, c'est possible que ce soit un Bourgogne. Moi, je suis mort de rire, quoi, parce que prendre un Pauillac pour un Bourgogne, tu vois. Et donc, mais je vois ce qu'il veut dire, parce que c'était une finesse, délicatesse, mais en même temps, il y avait quand même de la structure du cabernet, quand même. Hein. Mais cette finesse, délicatesse évoque dans leur esprit la Bourgogne. En me disant, mais c'est pas possible que ce soit Bourgogne compte tenu. Hein. Mais ça m'évoque ça. Quel meilleur compliment peut-on faire, tu vois. Pour moi, c'est effectivement, il y a un côté comme ça.
Je crois que le 2012, en plus, avait été déclassé en... Vous n'avez pas eu la AOC sur
ça,
les...
c'est le deuxième. Oui, c'est Léo de Pontécané.
Léo de Pontécané, tout à fait.
Qui n'avait pas eu la AOC. Qui n'avait pas eu la AOC.
C'est ce qu'on voit, le Pontécané en 2014.
Exact. Mais là, c'est le haut.
Sonia, ce vin, c'est aussi ton goût. Qu'est-ce que tu dirais de ce haut de Pontécané?
En fait, je fais partie d'une génération où les Bordeaux, c'est les vins à papa. C'est les vins, il faut avoir une cave, c'est très tannique. Et là, on est dans un univers qui est complètement différent. Et notamment sur l'aspect tactile aussi, ici, où là, on a vraiment un côté très velouté, on a une délicatesse qu'on ne soupçonne pas pour un vin de Bordeaux. Et en plus, ça se boit très facilement.
Presque un peu trop. Hein.
C'est vrai que c'est
pas l'image de Bordeaux, c'est sûr.
C'est pas du tout l'image de Bordeaux.
Mmh. Alors, j'ai oublié d'en parler sur l'Alsace. On avait l'habitude aussi de donner le prix des vins. Ce haut de Pontécané, on a dit autour de 30 euros. Le Kleinknecht Sylvaner Grand Cru Zotzenberg, c'était
max 15 euros.
Autour de 15 euros, parfait.
Je pense un peu moins même.
Très bien, là, on est dans des
on est dans les canons.
On est dans une fourchette de prix raisonnable, ce qui nous tient aussi à cœur.
On est dans le ligne éditorial.
Cela dit, en parlant prix et tout à l'heure ce que disait Sonia, c'est un élément important et parfois un problème pour le rouge et blanc avec la nouvelle génération. Nous, les plus anciens, on a eu la chance d'accéder aux vins de type Grand Bourgogne, Grand Bordeaux, etc., etc., à des prix relativement élevés, mais abordables, quand on avait un minimum de moyens. Quand
aujourd'hui, certains sont inabordables.
La plupart sont inabordables, on va dire. Et du coup, la jeune génération ben n'a pas cette culture du grand vin, des grands... c'est pas, même s'ils n'ont pas envie d'en boire, c'est pas très grave, mais pour en parler, il faut quand même un peu de culture là-dessus, quoi. Et c'est un vrai, ça peut être un problème, parfois. Alors, on y remédie en faisant des dégustations où les anciens cassent quelques bouteilles de leur cave. Voilà, on a fait des dégustations récemment avec du rayas, des trucs comme ça, voilà, pour que les gens se rendent compte que, bon, ok, les petits vins sympas, etc. Les petits vins sympas, c'est ça, c'est bien. Hein, mais il y a aussi des vins qui peuvent entraîner plus loin, plus haut. Et
est-ce à dire qu'on est plus en mesure d'avoir de très bons vins abordables aujourd'hui?
Si, de très bons vins, si. De très bons vins, heureusement, quand même.
Mais des vins exceptionnels, non.
Oui, voilà. Allez se dire... J'en entends parler, Raya, c'est quoi? C'est un mythe ou c'est une réalité,
mais là,
quoi? Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière le nom, quoi? Et je pense que unanimement, tout le monde, toi, t'étais peut-être passé un peu à côté, il me semble, lors de ces dégustations.
Ouais, moi, je suis la rebelle. Raya,
non, mais elle a trouvé ça dégueu, donc on peut dire.
Mais la majorité a dit, waouh, c'est quoi ce truc-là, quoi? Et c'est à l'aveugle, hein. C'est quoi ce truc-là? On savait qu'on goûtait des bons vins, hein, de bons vins. Ben, là, on se dit, ah oui, quand même, ça emmène plus loin, quoi. Ça emmène plus loin. Il y a de très bons vins, mais
on peut toucher au mythe avec le château des Tours.
Les vins,
j'ai jamais goûté Raya.
L'émotion, ça, c'est l'émotion. Moi, personnellement, il y a 2-3 vins qui m'ont fait avoir la larme à l'œil, mais au sens
physique, réel.
Physique, réel du terme, c'est Rayas 90. Ouais. Et c'est la Loubise le Roi. Alors, évidemment, c'est des vins un peu chers. Mais à l'époque, ils étaient pas si chers que ça. Enfin, ils étaient chers, mais pas complètement ridicules. Et un Claude Vougeot 95, je me souviens, voilà, c'est l'émotion, quoi. C'est l'émotion. Gustativement, après, il y a le restaurant aussi où il y a l'émotion, mais ça, c'est autre chose.
Oui, la nourriture. Mais pour revenir
c'est
à...
C'est rare, hein, l'émotion culinaire aussi.
Oui.
Ouais. Oui, mais, Sonia.
Je voulais dire, pour revenir à... C'est vrai que... Ce qui est bien aussi, c'est que pour les nouvelles générations, parce que voilà, il y a deux franges, on va dire, au rouge et blanc, une ancienne génération, une nouvelle génération, on n'a pas accès à certains vins. Ça fait partie de la culture aussi. Donc, il faut pouvoir au moins les avoir goûtés une fois pour pouvoir en parler. Et pour revenir à Rayas, souviens-toi, je n'étais pas la seule. On était trois, en fait.
Oui,
et que des jeunes, en fait. Mmh. Ouais.
Oui, parce qu'ils n'ont pas cette culture.
Voilà.
Donc, oui, ou il y a simplement une approche gustative qui est un peu spéciale, c'est-à-dire que effectivement chez Renault, si on n'aime pas le gouzan et réglisse qu'on retrouve sur Fonsalette, qu'on retrouve sur Château des Tours, etc., ben on n'aime pas, quoi. Enfin, on n'aime pas.
Oui.
Non, on n'est pas allé jusque là, mais on va dire que on n'a pas eu la larme à l'œil.
Il y a une typicité.
Larme à l'œil, c'est combien?
C'est 16. On met des tubes. Bon, je pense que c'est un style, quoi.
Non, c'est voilà. Après, oui, on a chacun nos. Parce que même au sein de ces dégustations, on va dire de grands vins, il y a débat.
Et tant mieux.
Oui.
Alors,
oui.
C'est ce qui fait la richesse d'une rédaction. Laurent.
J'ai récemment écouté l'interview d'un vigneron qui fait débat, qui s'appelle Loïc Pasquet.
Oui, tout à fait.
Du domaine Liber Pater. Est-ce que vous avez eu l'occasion de d'en discuter
en rédaction,
d'y goûter d'abord, parce que c'est quand même ça pour moi la question numéro un.
Je crois qu'il engloutit avec une bouteille le budget d'un trimestre, en fait.
Oui.
C'est ça le problème.
Il n'a pas arrêté.
Non.
Ah non, c'est celui de. C'est son pendant bourguignon, là. Un nom un peu hollandais. Il y a un domaine comme ça en Bourgogne avec des bouteilles de Bourgogne est à 1000 euros. J'exagère à peine.
Non, en revanche, j'aimerais vraiment le questionner sur sa viticulture, parce que je trouve qu'il y a des choses vraiment très intéressantes de ce qu'il fait.
Sur Liber Pater.
Ouais.
Oui, il va chercher des nouveaux cépages.
Il a une histoire qui est, il a un discours qui est extrêmement huilé et vendeur. La question, c'est de savoir comment ça se reflète dans ses vins.
Voilà, mais déjà, je voudrais quand même lui poser des questions sur la viticulture, sur des expériences qu'il fait. Je voudrais le pousser un peu plus là-dedans. Parce que notamment sur les francs de pied, tout
bien
ça, je voudrais, sur certaines choses, sur ses densités de plantation, sur la mer... Ouais. J'aimerais bien.
Ça éveille ma curiosité.
Précisant où tu as entendu cette interview, c'est...
Sur un podcast de nos amis.
Winemaker Show.
Winemaker Show, oui.
D'Antoine.
Mais aucun vin ne mérite d'être vendu 1000 euros. Voilà ce que je pense que ça, c'est...
Enfin, moi, je suis assez d'accord, évidemment. Voilà, je peux être que d'accord. Oui.
Non, mais ça, c'est problème. Le problème du prix est un vrai problème dans le vin aujourd'hui, quand même, hein, globalement. Enfin. Pas globalement, parce qu'il y a heureusement des bons vins abordables. Je veux dire, ces trucs qui s'envolent, là, c'est un vrai problème, parce que ça ne mérite pas ça, quoi. Je veux dire, ça devient... c'est plus du vin, quoi. Ça devient un objet de collection, ça devient un objet de niveau de vie, un peu comme une Ferrari, une Porsche, ou je sais pas quoi.
Oui, c'est un objet de représentation.
Voilà, c'est un objet de représentation. Ce n'est plus du vin. Le vin, c'est une boisson. Ok, qu'il y a des vins plus chers que d'autres, c'est normal. Il y a des façons de faire. Les vins qui coûtent cher, d'autres, il y a pas de problème.
Non, la spéculation, c'est le vrai problème, oui.
Voilà, quand on voit sortir des vins, 1000 euros, machin. Là, on est dans vraiment n'importe quoi.
On peut dire sans risque de se tromper que Le Rouge et le Blanc n'est pas une revue pour buveurs d'étiquettes, mais pour des gens qui aiment vraiment le vin lui-même, le sujet du vin, l'ensemble de l'univers du vin et de la vigne. Merci d'avoir partagé l'histoire et puis un peu le fonctionnement. On en a appris un peu plus sur Le Rouge et le Blanc. Ça nous tenait vraiment à cœur de faire ce focus sur cette revue qu'on aime beaucoup. J'invite chacune et chacun qui nous écoute et qui peut-être ne connaissait pas Le Rouge et le Blanc à le découvrir, soit en s'abonnant, soit en le demandant à leur caviste.
Soit en regardant le site internet déjà pour regarder les articles.
Soit en passant voir Laurent, s'ils sont parisiens ou de passage à Paris.
Tout le monde fait sa pub.
Arrondissement, chacun fait sa pub.
J'aime bien faire ma pub.
On fait la pub pour les autres Winecast également, on les salue. Continuez à lire Le Rouge et le Blanc. Vous, Philippe, Sonia, merci beaucoup de votre venue. Continuez ce que vous faites, j'ai envie de vous dire. Recrutez peut-être un peu plus de femmes.
De filles, oui.
Et merci pour les vins aussi.
Sonia est au travail. Et merci pour ces deux superbes vins. Beaucoup d'émotions. Un Alsace Sylvaner Grand Cru Zotzenberg Kleinknecht et un Pontécanet Haut de Pontécanet 2014. Un superbe vin de Bordeaux, et pour paraphraser quelqu'un qui est autour de cette table, Bordeaux c'est œdipien. Toi tu l'as dit d'une autre manière, Bordeaux c'est le vin de papa. Là on a vraiment un vin qui est à la fois le vin de papa mais aussi le vin d'aujourd'hui, et c'était un vrai plaisir. Merci à tous. On se retrouve pour une prochaine émission. On va parler de sites internet qui vendent du vin, figurez-vous. Allez, à très bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
Salut.